Nous allons lire un premier texte dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 16 et le verset 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Amen. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Rien que ces deux versets, tellement de choses à dire et surtout à vivre, quel défi pour nous. Je crois qu'il y a des étapes quand même que nous avons déjà franchies, nous avons connu l'amour de Dieu et plus que cela, nous y avons adhéré, nous y avons cru. Non seulement Dieu nous a révélé son amour, mais en plus, il nous a donné la possibilité d'avoir part à cet amour, d'être rendu participant à cet amour. Rien que déjà considérer l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu va plus loin que cela. Il nous rend participant à cet amour. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Et plus nous allons ressembler à Jésus-Christ, plus l'amour de Dieu sera parfait en nous. Et c'est cela qui nous donnera de l'assurance et qui fera qu'au jour du jugement, il n'y aura plus de crainte dans notre cœur. Plus nous ressemblerons à Jésus-Christ, plus l'amour de Dieu sera parfait, identique à Dieu lui-même. Et le titre de mon message, il est dans ce début du verset 17, « Tel il est, tel nous sommes ». Alléluia. Alors on hésite peut-être à dire Amen, parce que voilà, tel il est, tel nous sommes, et chacun nous regardons avec honnêteté notre vie, et c'est tout ce que nous allons partager ensemble ce matin. Sans fausse humilité, nous devons reconnaître que nous avons chacun pour notre part des progrès à faire, sans remettre pour autant en question la position qui a été acquise en Jésus-Christ. Et il y a une certitude que je voudrais rappeler encore ce matin, c'est que tous les croyants authentiques sont appelés des saints. Alors c'est un mot, saint, vous savez, en fait, voilà, demain c'est la fête de je ne sais pas qui, et la tradition a fait que le mot saint s'est un petit peu vulgarisé, on a du mal avec ce terme. Mais tous les croyants authentiques dans la parole de Dieu sont appelés saints. Et non seulement ils sont appelés saints, mais ils sont aussi appelés à mener une vie sainte. Et je voudrais lire avec vous dans la première épître de Paul aux Corinthiens, juste au chapitre 1er, les deux premiers versets, dans cette introduction à cette première épître, comment l'apôtre Paul parle de lui-même et aussi surtout de tous ceux qui ont été appelés au salut. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, juste les deux premiers versets. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. J'ai mis la virgule, mais c'est vrai que suivant les traductions que vous avez, le verset peut différer. En tout cas, la pensée, elle est là. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, reçoivent par la foi en lui cette position de sanctifier. Ceux qui ont été sanctifiés, position acquise par le sang, le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est en cela que nous pouvons nous appeler des saints. Souvent, l'apôtre Paul, dans les salutations, dira à tous les saints. Et si vous regardez les différentes épîtres, le mot saint est équivalent au mot chrétien. Et je voudrais insister sur cela, c'est que cette position acquise en Jésus-Christ, qui est la nôtre, nous devons la défendre. Quelqu'un dans sa louange ce matin a rappelé qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous devons être assurés, nous devons savoir, nous devons considérer que Dieu, dans son immense bonté, nous a appelés ses enfants. Et nous lui faisons honneur chaque fois que nous défendons, oui, nous sommes saints parce qu'il nous a sanctifiés. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, virgule, pour certaines versions, appelés à être saints. Attention, saint ne veut pas dire parfait. Là aussi, la tradition, alors je ne m'y étends pas ce matin, mais c'est intéressant si le sujet vous intéresse de voir comment dans la tradition on a modifié cette notion de saint. En fait, c'est presque le contraire, parce qu'il faut toute une vie parfaite finalement pour être déclaré saint, canonisé, etc. C'est dommage parce que nous avons, à cause de cela, du mal à être précis avec ces termes-là dans notre vie. Saint ne veut pas dire être devenu parfait. Oui, nous avons été sanctifiés, oui, nous sommes saints, mais nous sommes aussi appelés à être saints. Saints par vocation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu capable de devenir parfait. Par un processus continuel dans sa vie. On ne doit pas confondre le chemin et l'objectif. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut prétendre à ressembler à Jésus-Christ. Il y a comme un passage obligé, de la même manière que nous naissons à une naissance physique et que à ce moment-là nous pouvons prétendre à devenir un homme ou une femme. De la même manière, nous ne pouvons pas prétendre à ressembler à Christ si nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. C'est tout l'entretien de Jésus avec Nicodème qui l'explique. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu capable de devenir parfait. C'est un parfait en devenir. Et vous savez, l'apôtre Paul, en parlant de sa propre vie, et quand même pour nous, l'apôtre Paul, c'est quand même un modèle d'excellence, a dit ceci, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ dans Philippiens au chapitre 3 et le verset 12. Tel il est, tels nous sommes, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ pour que notre vie entière soit à la gloire de notre Dieu. Dans notre louange, souvent, et nous avons raison de le faire, nous disons, et nous l'avons chanté dans ce premier chant ce matin, « À Dieu soit la gloire ». Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez comment Dieu manifeste sa gloire dans notre monde ? Il le fait déjà par la création, par l'œuvre. Le psalmiste dit ceci, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors c'est vrai, quand on est un peu enfermé dans le béton, la nature, on ne la voit pas trop. Mais si vous avez l'occasion, allez au contact de la nature, tout ce que Dieu a créé. C'est merveilleux. Et ça vous parle de la gloire de l'Éternel. Comment Dieu manifeste sa gloire ? Eh bien par l'œuvre de son Fils, qui est révélé dans les Saintes Écritures. Cette gloire, est-il écrit dans Jean, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais aussi, comment Dieu manifeste sa gloire quand nous disons, oui, à toi la gloire, C'est parce que nous voulons, ou sinon notre prière elle n'est pas cohérente, c'est parce que nous voulons aussi que nos vies, contribuent à la gloire de son nom. Et c'est ainsi aussi que Dieu veut répandre la gloire de son nom dans notre monde, c'est par notre vie, par ta vie, par ma vie, qui se conformant de plus en plus à la vie de Jésus-Christ, rend manifeste à tous ceux qui nous entourent que Dieu est vivant. Tel il est, tel nous sommes. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur une pensée fondamentale de la parole de Dieu. Premier point, ça sera « Dieu a créé l'homme à son image ». Vous savez, cette intention que nous avons chantée, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est même pas quelque chose qui existe depuis 2000 ans. Mais l'intention de Dieu que nous ressemblions à lui, eh bien, c'est dès l'origine des temps. Lisons ensemble dans Genèse au chapitre 1er. Beaucoup connaissent très bien ces textes, mais je voudrais les repartager avec vous parce que peut-être certains ne les connaissent pas bien et c'est un enseignement important pour nous, je crois, de connaître l'intention de Dieu à l'égard de l'homme. Dans Genèse au chapitre 1er, nous pouvons lire au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme. » Et la femme, amen. Vous avez vu déjà cette insistance, il les créa à son image. Il est important de préciser que c'est bien sûr, et ça paraît évident, ce n'est pas une ressemblance physique. Dieu n'est pas enfermé comme nous le sommes dans un corps physique. Lorsque Jésus est avec la Samaritaine, il précise bien ceci, que Dieu, il est esprit. Et c'est surtout dans la sphère spirituelle que nous devons trouver cette ressemblance. Vous savez, on peut être émerveillé, je parlais de la nature tout à l'heure, de l'intelligence de certains animaux, de certains comportements au niveau des animaux, mais vous inquiétez pas, l'homme est un être totalement différent d'eux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et malgré tout ce qu'on essaye de nous dire, il ne faut pas tout confondre. Nous possédons une conscience, nous possédons la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal, cette intelligence pour modifier, je vais dire même peut-être pour détruire notre environnement, mais ça c'est un autre sujet. Regardez au chapitre 5, cette insistance quand même de la ressemblance à Dieu. Genèse chapitre 5, verset 1er. « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Chapitre 9, verset 6. Alors, je suis pénible, hein, j'aime bien qu'on lise beaucoup de textes ensemble. Hein, voilà. C'est pour vous donner au moins un reproche à me faire. Voilà. C'est pas facile, mais voilà, vous en avez un. Genèse, chapitre 9, verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Encore quelques versets, là, dans l'évangile de Luc. On fait un petit saut pour voir aussi que dans le Nouveau Testament, il y a Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset... Alors, on ne va pas lire, c'est en fait du verset 23 jusqu'à la fin. C'est certainement les versets que vous lisez les plus souvent, la généalogie de Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Élie, fils de Matha. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin, à la fin de ce chapitre. Fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Il est écrit « fils de Dieu ». Encore un verset dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, pour comprendre bien cette filiation, cette ressemblance. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. En Corinthiens chapitre 11, verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà, je ne commente pas le verset, mais il est l'image et la gloire de Dieu. Allez, un dernier verset, Jacques chapitre 3. Tous ces versets pour voir combien l'intention de Dieu a été de créer l'homme à sa ressemblance, l'homme à son image. Jacques chapitre 3, c'est ce discours sur la modération dans l'usage de la parole, la langue. Vous connaissez ces versets? C'est des versets aussi que vous aimez lire beaucoup. Jacques 3, verset 9, pas pour les autres bien sûr, pour nous-mêmes. Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voilà, c'est le dernier texte que je voulais passer, lire avec vous. L'importance de comprendre que Dieu, dans son intention, dès l'origine des temps, nous a pas créés comme toutes les œuvres de sa création, mais nous avons une particularité, et particularité avec un immense P. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais voilà, le péché est entré dans la race humaine lors de cette désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et cette beauté glorieuse que nous avions, nous l'avons perdue. Cette image de Dieu dans la vie de l'homme a été complètement brouillée par le péché. Et à partir de ce moment-là, l'homme est incapable de lui-même de retrouver cette ressemblance, de retrouver en lui, de recréer cette image de Dieu dans sa vie, malgré tout ce qu'il pourrait essayer de faire. Parce que, comme il est dit dans le prophète Ésaïe, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, dans Ésaïe 59, verset 2. Et c'est important d'insister, parce que devant notre incapacité à agir, ou même plus, à être comme Dieu, Dieu est venu lui-même sur la terre des hommes, afin de restituer à l'homme l'image primitive de la ressemblance avec Dieu. Ce que nous étions incapables de faire, Dieu l'a fait. Et c'est la beauté de cette, excusez-moi l'expression, la religion du christianisme, de l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme, qui a pris notre nature, pour que, à nouveau, enfin, au milieu des hommes, un homme, Jésus-Christ, fils de l'homme, comme il aimait souvent se faire appeler en rapport avec le sacrifice qu'il allait vivre, Jésus-Christ, fils de l'homme, et ça sera notre deuxième point, l'image du Dieu invisible. Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est, nous devons le réaffirmer encore ce matin, il est le Fils de Dieu, dont la vie entière reflète l'image de son Père. Et là aussi, on va lire quelques versets. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 44. Jésus est l'image du Dieu invisible. Jean chapitre 12, verset 44. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. En voyant Jésus, on voyait Dieu. Un peu plus loin, Jean 14, verset 6. « Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment dit, montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. » On continue. Colossiens chapitre 1er. Comme nous l'avons fait pour insister sur cette dimension que Dieu a été créé, que Dieu a créé l'homme à son image, je voudrais vraiment insister au travers de quelques versets que nous soyons imprégnés de cette pensée que Jésus était véritablement l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Alors, je regarde la version. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 19, un petit peu plus loin, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Au chapitre 2 du même livre, chapitre 2, verset 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Amen. Toute la plénitude de la divinité. Excusez-moi, je jongle un petit peu entre deux versions. Je vous ai lu la version Semeur. Un dernier texte. Allez, un dernier texte. Hébreux, chapitre 1er. Un dernier texte pour le point numéro 2. Je ne veux pas trop vous décevoir vite. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Je sais que c'est des textes que vous connaissez, mais vous savez, au milieu de nous, quand je préparais ces pensées, je me dis, c'est sûr que beaucoup d'entre nous connaissent parfaitement ce que nous partageons, mais je pense au milieu de nous à des frères et sœurs qui peut-être, voilà, on a parlé de personnes qui sont en préparation du baptême et nous ne devons pas passer à côté de certains fondamentaux que d'autres ne connaissent pas, peut-être pas aussi bien. Et j'étais repris et puis aussi dans le sens que nous aussi, malgré nos années, malgré que nous connaissions ces versets, je pense qu'il est bon aussi de se les rappeler pour que nous puissions les vivre comme une fraîcheur nouvelle dans nos vies. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Relire le verset 3 dans la transcription parole vivante. Ce fils, reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Jésus est l'image du Dieu invisible. Combien Dieu est bon. Il nous avait créés à son image. Le péché a fait que cette image a été détériorée dans la race humaine. Mais ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu, en continuant, j'allais dire, excusez-moi le terme, en s'obstinant dans son amour, est venu sur la terre des hommes et tout à nouveau apparu sur dans la race humaine, puisque, insistons bien sûr que Jésus était le Fils de Dieu, mais il était aussi en même temps Fils de l'homme. Toutes ces souffrances dont nous parle l'Écriture sont des souffrances d'homme qu'il a expérimentées, tout à nouveau, au milieu des êtres humains, presque incognito, puisque Jésus, vous savez, est venu, s'il venait aujourd'hui, il pourrait être comme nous tous, il sera habillé en costume, etc. Il tout à nouveau, l'image de Dieu est réapparue dans l'humanité. Et c'est en se tournant vers Jésus-Christ, et uniquement en se tournant vers lui, que nous pouvons prétendre à retrouver dans nos vies l'image de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, dit l'apôtre Paul aux Romains, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères, dans Romains chapitre 8, verset 29, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Alors ça, c'était le deuxième point. Jésus, l'image du Dieu invisible, pourquoi ? Parce que ce n'est qu'au travers de lui et de lui seul que nous pouvons prétendre retrouver cette dignité perdue dans le temps, l'image de Dieu dans notre propre vie. Et je voudrais terminer par ce troisième point, cette nécessité d'être transformé. Nous sommes transformés. Il y a possibilité, et ça c'est une grâce merveilleuse de Dieu, il y a une possibilité pour chacun d'entre nous d'entrer d'une manière active dans un processus de transformation qui nous conduira au terme de notre voyage à la ressemblance parfaite de Christ. Je vous cite le verset pour ne pas encore vous faire trop tourner les pages. Mais l'apôtre Jean dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et je réinsiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Défendons notre position en Jésus-Christ. Vous savez, l'ennemi peut souvent nous décourager. Certains, je ne suis pas là pour juger ou pour dire quoi que ce soit, certains, même peut-être pour des gens qui, pour nous, sont des modèles spirituels, des gens qui devraient nous enseigner, certains pourraient nous faire remettre en question, à cause de notre vie, à cause de plein de choses, cette position acquise en Jésus-Christ. Et je pense que le diable fait un chou gras là-dessus pour nous déstabiliser. Et nous ne faisons pas honneur au Seigneur lorsque nous ne défendons pas cette position acquise en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Et nous voyons bien au travers de ces versets, je terminerai dans ce troisième point, que nous sommes dans un processus. Je l'ai dit, il y a une position acquise à ceux qui ont été sanctifiés. Vous êtes des saints. Alléluia. Appelés à être saints, à mener une vie sainte, à progresser toujours plus, grandir dans la ressemblance à celui qui est l'image parfaite de Dieu. Nous avons besoin, quel que soit le niveau où nous en sommes, personne ne peut dire qu'il a atteint le but. Ce ne serait pas honnête. Nous avons tous besoin d'être sans cesse renouvelés, transformés. Et cette transformation de l'homme à l'image de Dieu, nous l'avons dit dans ce cantique, n'est rendue possible que par l'action de l'Esprit de Dieu au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Non pas par nos efforts, même si nous allons le dire. Dieu a besoin de nous. Souvent, Jésus a dit, veux-tu être guéri ? Et il a besoin de notre volonté. Il a besoin de notre détermination. Nous allons le partager. Mais cela est rendu possible par l'Esprit. On va lire un texte dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 34, pour comprendre mieux un autre verset dans l'Épître de Paul aux Corinthiens qui fait référence à ce texte de l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 34. Au verset 29, au verset 35, parce que ce que Moïse a vécu là, C'est une expérience que nous sommes appelés à faire, pas une fois, deux fois, trois fois, mais tout au long de notre vie chrétienne. Un processus de transformation. Alléluia. Exode chapitre 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Verset 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Quelle expérience. Et nous sommes appelés à vivre quelque chose d'encore plus grand. Encore plus grand. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. J'ai voulu relire ce texte pour ceux qui ne connaissaient pas le contexte de ces versets que l'apôtre Paul va nous laisser dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. Alors il faudrait relire tout le contexte, si vous le relirez tranquillement, tout le chapitre 3, on peut lire par exemple juste le verset 7. « Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Alléluia. Si ce qui a été manifesté, que nous avons lu dans le livre d'Exode, l'a été glorieux, encore plus ce ministère de l'Esprit sera-t-il encore plus glorieux. C'était un éclat passager, mais ce voile, pour que le peuple d'Israël ne porte pas attention sur la diminution petit à petit de cet éclat. Est-ce que nous allons regarder juste le verset, alors on peut lire au verset 15, par exemple, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Verset 18. Alors ce voile dont il est fait question ici, c'est le voile de la parole de Dieu. Voilà, quand nous nous convertissons, voilà, tout cela nous est révélé. C'est comme le passage, vous savez, dans ce voile du temple qui a été ouvert. Voilà, nous avons une libre entrée, mais désormais, dans le sanctuaire. Et comme Moïse enlevait le voile quand il allait dans la présence de Dieu, nous aussi, nous pouvons entrer librement dans le sanctuaire. Et à ce moment-là, c'était un homme, Moïse. Mais le début du verset 18 dit, « Nous tous, chaque chrétien a ce privilège. » Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes, alléluia, transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Je vous lis la version Semeur. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Nous tous les chrétiens nés de nouveau, en qui réside l'Esprit de Dieu, peuvent entrer dans la présence de Dieu, le visage découvert. C'est cela notre position. C'est cela ce que nous avons acquis par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous contemplons. Et là, je reviens un petit peu sur le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Mon espoir de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Contempler, il y a une dimension qui est très forte là de la participation de l'homme. contempler. Qu'est-ce que ça veut dire? Contempler, c'est regarder avec beaucoup d'attention. Contempler, c'est regarder avec beaucoup d'admiration. Ça fait bien sûr penser aussi à une notion de temps. On ne peut pas contempler quelque chose en courant, en marchant, et on ne peut pas contempler quelque chose à la vide, c'est impossible. Et cela, c'est toute la responsabilité de notre vie, d'avoir faim et soif de lui. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous voyons ce miroir, c'est en définitive les Écritures, parce que cette révélation de Christ n'est pas encore parfaite pour nous, ce qui fait que nous ne pouvons pas même lui ressembler parfaitement, puisque c'est le jour où nous le verrons que nous serons définitivement transformés. Nous voyons la gloire de Dieu au travers des Écritures, en lisant la vie de Jésus-Christ dans toutes les Écritures, mais non seulement dans les Évangiles, mais aussi, vous savez, dans l'Ancien Testament, comment Jésus a montré aux disciples ce qui le concernait. Toute la Bible est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est comme cela, et cela a été rappelé ce matin dans une prophétie, c'est en passant du temps dans la présence du Seigneur et principalement autour de sa parole. Comment connaître la vie de Jésus sinon dans les Écritures? C'est dans ce temps que nous passons seul à seul avec lui ou collectivement dans ce temps que nous passons maintenant que notre vie, que notre être entier est transformé. C'est cela. Transformé en la même image, de gloire en gloire. Plus nous le contemplons, plus son image se forme en nous et notre nature se conforme à Christ. Et ainsi, nous réfléchissons, nous renvoyons à tous ceux qui sont autour de nous l'image de la gloire du Seigneur. De gloire en gloire signifie et indique un caractère progressif, ça ne se fait pas du jour au lendemain, le jour de la nouvelle naissance. Et je sais qu'il y a beaucoup de frustration, mais le caractère pour que les sentiments de Christ s'impriment dans nos vies, pour que sa façon de penser, de voir, d'agir tel que nous avons chanté, pour que son amour soit aussi le mien, il faut du temps, il faut des jours, il faut des mois. Il faut être persévérant. Même l'apôtre Paul, je vous l'ai dit, après bien des années, reconnaît qu'il a besoin, qu'il n'a même pas atteint la perfection, mais qu'il a besoin de courir dans ce but et dans cet objectif. Plus nous contemplons son image se reforme à nous, nous retrouvons l'intention originelle de Dieu que son image parfaite soit imprimée dans nos vies. Nous le contemplons. Nous sommes transformés. Et peut-être sans nous en rendre compte, Moïse, il descendait de la montagne, il ne s'était pas rendu compte que son visage rayonnait. Ça, je trouve que c'est la plus belle expérience. Que ce ne soit pas nous qui témoignons que nous sommes des enfants de Dieu, mais que ce soit ceux qui sont autour de nous, nos enfants, nos collègues de travail, dans l'Église. Il y a quelque chose dans sa vie qui me donne envie. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu dans ce monde qui en a tellement besoin. C'est l'Esprit de Dieu, insistons aussi sur ce passage, c'est pas nous qui nous transformons, mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies qui nous transforme. Lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur. Un archevêque du IVe siècle, Chrysostome, a écrit ceci, « De même qu'un argent pur, exposé aux rayons du soleil, reflète ses rayons, non de sa nature, mais par l'éclat du soleil. Ainsi, l'âme purifiée par l'Esprit de Dieu reçoit un rayon de la gloire du Seigneur et le réfléchit au loin. » Une autre image peut-être nous parle aussi, c'est la lune. Quand vous regardez la lune, ben des fois on ne la voit pas, c'est un astre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclat en elle-même. Et quand elle ressort, vous avez vu, des fois, la nuit, c'est impressionnant, j'ai l'impression que c'est le soleil lui-même. La lune reflète l'éclat du soleil, non pas par sa nature, mais par les rayons du soleil qui viennent sur sa vie. Nous, on ne peut rien, par notre propre nature, reproduire de l'éclat du Seigneur. Mais lorsque nous laissons en Jésus-Christ les rayons de la gloire de Dieu illuminer notre vie, nous réfléchissons autour de nous la gloire du Seigneur. Vous savez, le fruit de l'Esprit, avec toutes ses qualités, doivent fructifier dans notre vie. Et nous devons être persévérants, ne jamais oublier notre position que nous avons acquise en Jésus-Christ. Et nous devons l'affirmer, nous devons prendre cette autorité dans notre vie. Oui, je suis saint parce que tu as tout accompli pour moi à la croix du calvaire. Mais je réalise aussi combien dans ma vie, j'ai besoin jour après jour de grandir, de mener, de répondre à cet appel que j'ai reçu dans ma vie personnelle. Et ça, c'est un appel qui correspond à tous les enfants de Dieu, saints par vocation, appelés à mener une vie sainte. Je termine en conclusion. La victoire sur des péchés précis dans notre vie, c'est une chose. Et elle fait partie du changement que Dieu veut opérer dans la vie de ses enfants. C'est certain. Mais la transformation de l'être tout entier, va plus loin. Elle affecte notre vie intérieure, toute notre vie extérieure, notre pensée, nos caractères, notre relation avec les autres. Voilà ce que pratique la transformation, le changement que Dieu veut opérer dans la vie de ses enfants, pour que nous puissions de plus en plus produire par nos vies les caractères de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a eu un excès un petit peu dans l'interprétation, je vous ai lu, 2 Corinthiens 5, 17, de comprendre que justement le passé était définitivement fini et que maintenant, ça y est, nous étions dans la perfection de la nouvelle vie, et d'où effectivement des découragements, en tout cas des désillusions dans ce domaine-là. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a d'un côté la disparition des choses anciennes et il y a d'un autre côté le début des choses nouvelles. Et c'est ce que symbolise fortement d'ailleurs le baptême, lorsque nous prenons le baptême. Il y a le symbolisme de la mort à l'ancienne vie et lorsque nous sortons de l'eau, de la résurrection, de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je voudrais insister sur ce point, cette expérience, ce n'est pas un jour, c'est toute notre vie que nous devons la faire. L'apôtre Paul dit, oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, vous savez comment Jésus nous a parlé, celui qui ne porte pas sa croix. C'est quelque chose de progressif, continuel dans notre vie. Et cela demande pour nous non seulement de la volonté, de la décision, mais aussi de la persévérance. Ainsi, l'apôtre Paul a pu dire aussi, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel il est, tels nous sommes. Que Dieu nous aide à grandir toujours plus dans la ressemblance de Jésus-Christ. Prions le Seigneur un instant. Éternel notre Dieu, nous pouvons dire ensemble ce matin, tes œuvres elles sont parfaites. Combien nous ressentons l'imperfection de nos vies. Combien nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes plus facilement loin de toi que près de toi. Et tout ce que nous avons vécu ce matin nous rappelle que tu nous veux dans ta présence, Seigneur. Quel que soit le moment, quel que soit le lieu, tu nous veux avec toi. Tu nous l'as rappelé encore ce matin, autour de ta parole, dans ces moments de prière, seul à seul avec toi. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs, ceux qui ont du mal, ceux qui ont des difficultés, Seigneur, à passer du temps avec toi, qui ne vivent que ce temps si petit, Seigneur, où nous sommes réunis le dimanche matin. Mais même si ça a été que ce moment-là pour certains, je te prie que ta parole ce matin puisse être imprimée au fond de leur cœur. Seigneur, par ton esprit, tu es capable de rendre vivantes toutes ces paroles que nous a partagées. Le monde qui nous entoure a tellement besoin et tellement éloigné de la gloire de ton nom qu'il a besoin d'hommes et femmes comme nous, d'églises qui se lèvent pour porter haut la gloire de ton nom. Et nous le ferons déjà, Seigneur, dans notre propre vie, dans nos familles, Seigneur, là où nous évoluons, là où tu veux que nous soyons, Seigneur, qu'importe, nous voulons porter haut la gloire de ton nom. Alors, Seigneur, que ton esprit nous aide, oui, jour après jour, Seigneur, à ce que nos caractères, nos pensées, nos relations avec les autres soient de plus en plus conformes à celles de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour le tout accompli à la croix du Calvaire. Que ton nom soit béni. Amen.